tous. Pour ceux qui ont envie de parler d'histoire ce matin, on reçoit dans Histoire en filigrane Pierre Stéphanie, qui est un historien belge, journaliste avant tout, mais historien de la vie quotidienne. On vous connaît pour vos travaux sur la vie quotidienne des Belges dans les années 50, 60, et notamment sous l'occupation aussi. Et là, vous vous écartez de la Belgique proprement dite et vous nous livrez un livre d'histoire très actuel sur la grande crise de 1929. Et l'ouvrage sort chez XL Éditions, 1929, la première grande crise. Alors, comment est-ce que vous avez travaillé pour rassembler toutes ces informations? Parce que c'est avant d'être un livre d'histoire, enfin, ça se lit comme un roman, hein, et ça fourmille d'anecdotes. Vous avez lu la presse de l'époque? Comment est-ce que vous avez fait?
Oui, ben d'abord j'ai lu ce que les autres ont écrit, ça peut servir. Et puis je suis allé voir aussi les dossiers que j'accumule depuis, mettons, 50 ans dans mon garage. Hein, et puis j'ai rencontré des gens qui m'ont raconté des choses. Et puis voilà. Vous faites bien de dire que ce n'est pas... Vous ne l'avez pas dit, mais précisons que ce n'est pas le livre d'un historien, c'est le livre d'un profane pour des profanes. Donc ce n'est pas du tout une analyse de la crise de 1929. D'ailleurs, je suis allé voir les livres des spécialistes, je me suis aperçu qu'ils n'étaient pas d'accord entre eux. Mais de toute manière, ce n'est pas ça que j'avais envie de faire. Je voulais raconter l'événement historique, parce que 1929, la première grande crise, on a bien fait de l'intituler comme ça, parce que le titre n'est pas de moi. Parce que il y a des crises tout le temps, depuis toujours, il y a des crises au bout de 10 ans, 12 ans, il y a une crise économique. Mais là, la première grande crise, il y en avait jamais eu de pareil avant, et on se demande si on aura une autre après. Ce qui s'est passé en 1929, c'est que l'ascenseur économique, ça monte et ça descend, l'ascenseur, mais là, en 1929, tout à coup, il est resté bloqué au rez-de-chaussée. Et il n'est jamais remonté, en fait, avant 1940, où on a remis les comptes, les pendules à l'heure, et on est reparti de zéro, c'est le cas de le dire. Donc c'était ça qu'on a voulu faire, la première grande crise.
Oui, c'est-à-dire que c'est une crise qui se différencie des crises du 19e siècle, ou même des crises de l'Ancien Régime, qui sont des crises de sous-production, des crises de sous-production, alors que la crise de 29 est liée à l'origine à une surproduction.
Oui, c'est une des causes, c'est un des facteurs, ce n'est pas le seul. En réalité, je lisais, il y a un livre de John Galbraith, qui est lui un vrai économiste, un des premiers du XXe siècle, qui dit qu'il ne sait pas, en fait. Je pourrais vous trouver la solution si on avait le temps, mais dans ce paquet de bouquins, j'aurais pas la possibilité. Mais il dit que dans le fond, ça a commencé, on ne sait pas trop pourquoi. Oui. Il y a un certain nombre de facteurs qu'on peut identifier, par exemple la surproduction par rapport... on avait trop produit et puis on se mettait à consommer moins, mais aussi la spéculation dont il faut dire un mot tout à l'heure, parce que c'est un problème qu'aujourd'hui on connaît encore. La spéculation, c'est un des drames de la crise d'aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce qu'il y a eu cette crise-là comme ça à ce moment-là? Dans le fond, on n'en sait trop rien.
Oui, et puis ce qui est tout à fait fascinant, c'est de se rendre compte que ce fameux jeudi noir, lorsqu'il arrive le 24 octobre 1929, et que le cours de la bourse s'effondre de façon spectaculaire, finalement, personne ne l'avait vu venir ce jour-là. Comment est-ce que ça se fait que des gens, même très aguerris du point de vue de l'économie pour l'époque, je pense à Winston Churchill, qui est anglais mais qui était ministre des Finances et qui avait beaucoup d'actions, lui-même, il ne s'y est pas attendu.
Il y a des gens qui l'avaient vu venir, mais on ne les croyait pas. Et parmi les plus informés qui ne savaient pas, il y avait en fait Churchill qui avait des économies, qui les avait placées aux États-Unis et qui les a perdues. Il y avait aussi John Keynes, qui est l'économiste numéro un du XXe siècle.
Oui, qu'on invoque tout le temps aujourd'hui.
Ça, oui, qu'on continue à invoquer d'ailleurs. À un moment donné, on le prenait pour le Père Noël, puis ça n'est pas tout à fait ça, on l'a un peu enterré, puis maintenant on le redéterre. Mais lui aussi avait des économies et il en a perdu les 4/5. Donc c'est, en effet, il y a quelque chose de tout à fait irrationnel dans ce qui s'est passé cette année-là et dans les années suivantes aussi.
Mais justement, est-ce qu'une des raisons de cet aveuglement, c'est pas aussi l'atmosphère des années 20, l'atmosphère de ce que vous appelez les années de Charleston, qui sont des années juste après la Première Guerre mondiale, où on a envie d'oublier le conflit, et où il y a eu quand même des avancées sociales tout à fait importantes, que ce soit pour la place des femmes, que ce soit... dans le cinéma, la publicité, enfin voilà, il y a toute une euphorie des années 20 qui mène à un aveuglement sur la crise qui se profile.
Il y a un monde nouveau qui apparaissait, où tout semblait facile, bien que, par exemple, en Angleterre, la situation économique était très difficile. Mais, en effet, une espèce d'explosion de folie après la tragédie de la Première Guerre mondiale. Et dans le domaine de l'économie... C'est surtout aux États-Unis que tout ça a commencé, en fait, finalement.
Oui.
Et le phénomène américain, c'était que tout le monde croyait là de pouvoir devenir riche, et des hommes importants, le président des États-Unis, enfin tout le monde, les gens les plus qualifiés disaient c'est pas difficile de s'enrichir, il suffit d'acheter du papier et de le revendre la semaine prochaine plus cher que ce qu'on l'a acheté. Et on l'a cru jusqu'au moment où, à un moment donné, ça ne marche plus, et la machine repart en arrière. Et tout à coup, là, des tas de gens se sont trouvés... ils n'avaient plus leur action, où elles valaient plus rien, et ils n'avaient pas non plus de quoi dédommager, parce que ce papier s'achetait en empruntant aux banques. Mais ils n'avaient plus non plus de quoi rembourser, si bien que plus personne. Alors il est parti une série de faillites dans le monde bancaire, par exemple, des millions de braves gens se sont trouvés ruinés, et l'économie s'est trouvée dévastée par ce phénomène.
Et justement, qui ont été...
Qui étaient liés à la spéculation, essentiellement.
Oui, et toutes les classes sociales ont été touchées. C'est-à-dire que les premières victimes de cette crise ont été les petits actionnaires ou les gros, surtout ?
C'est surtout les petits actionnaires. Mais enfin, il y a pas mal de gros qui se sont aussi retrouvés dans la difficulté. Dans une émission de télé qu'on voyait il y a 15 jours sur Arte, sur le même sujet, dans le fond... Les gens qui ont regardé cette émission peuvent se dispenser d'acheter mon bouquin parce qu'on raconte la même chose. Un industriel racontait qu'il avait été honteux de voir son père vendre dans la rue des cravates. Ça s'est passé en effet comme ça. On n'imagine pas chez nous la manière dont la crise économique s'est répandue et s'est manifestée aux États-Unis. C'est une vraie tragédie nationale. Il y a eu tout à coup 25% de chômeurs.
Oui, et c'est à ce moment-là qu'on a vu des gens aussi quitter tout, essayer de refaire leur vie en partant vers la Californie. Et on a toutes ces images très très dures de la Grande Dépression qui s'installe aux États-Unis.
L'agriculture était en crise depuis longtemps déjà, en réalité. Mais elle a souffert plus encore que les autres catégories sociales du fait du krach de 1929. Et c'est ce qu'on voit notamment dans le très beau film de John Ford, d'après le roman de John Steinbeck, Les raisins de la colère. Il partait sur de vieilles bagnoles vers la Californie, où finalement ils trouvaient une situation pire encore que celle qu'ils avaient quittée. C'était une période de misère tout à fait, dont on n'a aucune idée aujourd'hui, où nous nous plaignons tellement et nous pensons être au fond du trou, on entend ça tous les soirs à la télévision, où certains pensent de cette façon-là, ça n'a aucune comparaison avec les années 30, où le produit national brut aux États-Unis a baissé de moitié.
Et alors, comment est-ce que la crise se mondialise ? Parce que aux États-Unis, donc, il y a ce krach boursier, et finalement, comme un château de cartes, on se rend compte que l'économie aussi est touchée en Europe. Est-ce qu'on peut parler de la situation économique de l'Europe qui a du mal à se relever de la Première Guerre mondiale ? L'Allemagne doit payer des réparations à l'Angleterre, à la France, ce qu'on a appelé le diktat de Versailles, qui l'oblige finalement qui la rend à bout de souffle et qui va avoir une conséquence politique terrible, c'est la montée des fascismes. Mais en tous les cas, comment est-ce que la crise se mondialise à ce moment-là ?
C'est parce que les États-Unis étaient en train de devenir la première puissance du monde. Ils avaient prêté de l'argent un peu partout, notamment en Europe. Et lorsque les États-Unis se sont trouvés en difficulté, ils ont voulu rembourser leur argent. On n'a pas pu le leur rendre. Et de proche en proche, en un an ou deux, le monde entier s'est trouvé touché par ce phénomène.
Et alors, ce qui est assez terrible, finalement, c'est que quand cette crise éclate aux États-Unis, on s'enfonce progressivement dans la crise, et le président des États-Unis, à l'époque, Hoover, lui, décide de laisser faire. pourquoi est-ce que il n'intervient pas pour essayer d'endiguer cette terrible crise?
Parce que la doctrine économique répandue partout à l'époque, c'était il faut laisser l'économie se guérir toute seule, il n'y a pas de solution. Et c'est là qu'intervient John Keynes, dont on parlait tout à l'heure, qui pense, lui, qu'il faut relancer l'économie par la consommation, créer les moyens, créer du pouvoir d'achat de façon à faire repartir les affaires de cette façon-là. Ce qui s'est fait aux États-Unis en partie, parce que Roosevelt, qui a appliqué dans une certaine mesure cette politique-là, mais pas du tout d'une façon doctrinaire, ça lui paraissait pratique.
C'était intuitif pour Roosevelt. Roosevelt est élu en 1932, donc oui. 3 ans après la crise. Oui. Et lui, il réagit très différemment de son prédécesseur. C'est la politique du New Deal.
Mais ouvert, c'était l'école. On ne fait rien. On attend que ça passe parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Il était bloqué. Il n'était pas aussi nul qu'on l'a dit, ce brave homme. Ouvert, c'était un homme très brillant qui a auparavant fait des choses très intéressantes et très utiles. Mais là, les doctrines et les façons de faire de l'époque lui recommande. Il pensait devoir obéir à ses façons de faire et ne pas bouger, ne toucher à rien. Tandis que Roosevelt s'est mis, lui, en effet, à créer du pouvoir d'achat. Et dans une certaine mesure, seulement dans une certaine mesure, Roosevelt n'a pas non plus fait de miracle, contrairement à ce qu'on croit souvent. Mais il a réussi, jusqu'à un certain point, à faire repartir les choses un petit peu.
Oui, et finalement, est-ce que c'est pas une leçon qu'on a pu tirer de la crise de 1929, c'est de réagir, enfin que l'État réagisse et que les banques centrales réagissent rapidement pour essayer d'endiguer la crise et ne pas faire ce que Hoover a fait, c'est-à-dire de laisser l'économie se réguler, mais au contraire d'intervenir rapidement, de relancer le pouvoir d'achat, de lancer des politiques de grands travaux pour essayer de réagir. Finalement.
C'est
une leçon de 1929, ça?
Ça a marché jusqu'à un certain point, mais en fait, la crise, l'ascenseur remontait un peu et puis redescendait un peu, mais en réalité, la crise n'a été résolue que par l'arrivée de l'industrie de guerre et par les événements de 1940. C'est tout à fait tragique, mais ça a été la vraie fin de la crise, ça a été la Deuxième Guerre mondiale.
Mais ça, c'est terrible, ça, de se dire finalement que tous les efforts de Roosevelt n'ont servi à rien. Il faut une Deuxième Guerre mondiale pour se sortir de la crise.
Je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais enfin, les faits sont là.
Et finalement, vous avez cette phrase, enfin, vous résumez assez bien, la crise de 1929, elle est comprise entre les deux guerres mondiales. Elle en est à la fois la fille et la mère. Et on ne peut pas comprendre la crise de 1929 si l'on ne comprend pas les conséquences de la Première Guerre mondiale et l'arrivée de la Seconde. Comment est-ce que vous voyez ça, cette imbrication de la crise de 1929 dans les deux guerres mondiales?
J'ai vraiment dit tout ça, moi. Je raconte l'histoire, moi. Je n'analyse pas le problème, hein, parce que... Galbraith croit que la première crise, la crise de 29, a été un événement plus important pour le monde, et surtout pour les États-Unis, mais pour le monde aussi, que la marche sur la Lune, que quoi que ce soit d'autre, et même que les deux guerres mondiales, dit-il. Si bien que c'est ça que je raconte, moi. Je n'essaye pas d'expliquer aux gens pourquoi ça s'est passé comme ça. Je constate que ça s'est passé et je raconte ce qui est arrivé au public, à vous et à moi.
Oui. Oui, et puis évidemment, votre ouvrage fourmille d'anecdotes. Et une anecdote tout à fait amusante dans cette période un peu noire, c'est le monsieur qui a inventé le Monopoly. À cette époque de la crise.
Oui, de temps en temps, il y a quelqu'un pour qui ça a profité. C'était un chômeur. Il a consacré ses loisirs à inventer le Monopoly. Il a trouvé quelqu'un qui a financé la diffusion du Monopoly. Et puis, à partir de là, quelques années plus tard quand même, il n'a plus rien eu d'autre chose à faire qu'à gérer sa fortune, quoi.
Oui, tout à fait.
C'est vraiment très anecdotique, parce que la vraie conséquence de cette crise, ce sont des millions de chômeurs à travers le monde, des millions de gens dans la misère partout dans le monde. Ce n'est pas... Donc le Monopoly, c'est très, très anecdotique. Dans
oui, mais ça fait partie un peu de l'esprit de votre livre.
Bien sûr, naturellement.
Et alors, quand est-ce qu'on a l'impression de sortir de cette crise, avant même que la Seconde Guerre mondiale arrive, dans les années 30, il y a l'arrivée, en tout cas en France, du Front populaire. Vous le racontez très très bien, redonne un espoir.
Oui, parmi les souvenirs que j'ai, moi, j'avais 5 ans en 1930, donc j'ai quelques souvenirs comme ça, quelques images qui me sont restées. Par exemple, l'une, c'est, ça se passait à Verviers, c'était la ville à côté de laquelle se trouvait mon village, et je vois encore une file de messieurs, d'hommes misérables, avec des récipients de toutes sortes à la main, faisant la file à une soupe populaire. Je vois cette image-là. Ou bien, j'entends dans les réunions de famille parler de la crise. La crise revenait tout le temps dans les conversations, et avec un C majuscule. Et je me suis aperçu, d'ailleurs, en lisant les livres des autres, qu'on ne parle pas, on parle de la crise, mais le vrai nom de la crise qui se prolonge pendant 10 ans après 1930, ça s'appelle la Grande Dépression. Et dans tous les ouvrages, savants ou pas, c'est déjà un G, un D majuscule. Et c'est comme ça que le mot crise est dans ma tête autrement que dans la tête des gens qui n'ont pas connu cette époque-là. Et alors là, 1936, il y a aussi une image, c'est celle de messieurs qui sont assis sur le seuil de la maison en fumant leur cigarette à un moment où ils devraient être au boulot. Et là, je ne sais pas si dans mon souvenir ce sont des chômeurs, c'est bien possible, ou bien si ce ne sont pas plutôt des gens qui sont en congé payé. Parce que 1936, c'est l'année des congés payés. En effet, il y a eu un changement de majorité en France qui était le Front populaire et qui a créé toutes sortes d'avantages sociaux, dont les vacances payées. Un an après, déjà, il fallait faire marche arrière. Ça ne pouvait pas continuer. Ils avaient été trop généreux, donc il a fallu tout de suite revenir à la rigueur. Mais malgré tout, les congés payés sont un des grands moments de cette avant-guerre tellement tragique à beaucoup de titres. Là, il y a comme une espèce de lumière, comme un moment de bonheur. Ça, c'était 1936 aussi, oui.
Oui, et dans votre livre, il alterne tout le temps des moments d'espoir, comme les congés payés, comme des